Bienvenue sur le podcast de la psychonutrition, le rendez-vous de la santé holistique. Je suis Claire Pensée, diététicienne nutritionniste, professeure de yoga et créatrice de contenus digitaux. Dans ce podcast, seule ou en compagnie d'experts dans leur domaine, je vous transmets des clés de santé accessibles et concrètes pour vous sentir sereine et alignée au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais aussi à lui donner un avis et 5 étoiles afin de soutenir mon travail pour l'aider à perdurer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Manon Borderie, naturopathe, connue sur Instagram sous le pseudo de Manon Naturopathe. Je la reçois dans cet épisode pour parler des troubles digestifs et en particulier du syndrome de l'intestin irritable, du SIBO et de la candidose. Dans cet épisode, j'ai demandé à Manon de nous raconter son parcours et pourquoi elle a décidé de se spécialiser dans la prise en charge des troubles digestifs en naturopathie. Elle partage avec nous ses conseils d'un point de vue global et holistique pour se sentir mieux dans son corps et avoir une meilleure digestion. On aborde les notions de stress, de nerfs vagues, de régime FODMAPS et des autres solutions qu'on peut mettre en place pour retrouver un confort digestif durable. À ce sujet, si vous êtes concerné par le syndrome de l'intestin irritable et que vous souhaitez en savoir plus sur le protocole FODMAPS et vous faire accompagner, je vous invite à consulter mon guide du côlon irritable. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Je lui ai aussi posé mes questions sur comment elle prend en charge la candidose du point de vue naturopathique. Là encore, si cette affection vous concerne, je vous suggère de vous renseigner sur mon guide Stop Candida, dans lequel je retranscris le protocole anti-candidose que j'ai appliqué pour mettre fin à ce problème. Je vous mets aussi le lien de ce guide dans les notes de l'épisode. J'ai également interrogé Manon sur son parcours d'entrepreneur et sur ses activités professionnelles en dehors de ses consultations. Comme d'habitude, à la fin de l'épisode, Manon n'échappe pas à mes traditionnelles questions de fin et se livre sur son rapport à son corps et comment il a évolué au fil des années. J'espère que cette conversation vous inspirera et vous apportera des clés que vous pourrez appliquer dans votre quotidien. Je vous laisse donc avec notre échange et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Manon, bienvenue dans le podcast, comment vas-tu ?
Hello Claire, écoute, je vais très bien, j'espère que toi aussi, et je profite pour te remercier de ton invitation dans ce podcast et d'avoir pensé à moi pour cette thématique.
Oui, bah comme je te disais en off, pour moi, t'es la personne adaptée et parfaite pour aborder ce sujet, donc forcément, j'ai pensé à toi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu souhaites nous expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie aujourd'hui ?
Oui, avec plaisir. Alors, je suis naturopathe et ce depuis 4 ans maintenant. Naturopathe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'accompagner des personnes qui connaissent des difficultés de santé et de manière 100% naturelle. Donc pour ça, on a 1000 outils, on a l'alimentation, la phytothérapie, l'aromathérapie par exemple, les compléments alimentaires et bien d'autres choses encore.
Ouais, c'est hyper intéressant. Je me suis toujours intéressée à la naturopathie. Comment toi, est-ce que tu as découvert cette pratique ? Qu'est-ce que tu as fait que tu as souhaité te former ? Est-ce que tu as eu un élément déclencheur particulier dans ta vie ?
Alors oui, moi c'est vrai que je ne connaissais pas du tout la naturopathie. Je ne m'y intéressais pas forcément quand j'étais adolescente. C'est pas quelque chose qui était intégré dans mon cercle familial, par exemple. J'ai plutôt découvert la naturopathie à l'époque où je travaillais à Paris. Donc moi, j'étais plutôt destinée pour travailler dans le milieu éditorial, puisque j'ai fait toutes mes études, mon master, etc., autour de ce milieu. Donc je travaillais dans une maison d'édition à Paris qui publiait en fait des naturopathes. Et c'est là que j'ai découvert ce corps de métier et je me suis dit, mais ce métier a l'air extraordinaire, pourquoi j'en ai jamais entendu parler ? Parce que c'est vrai que c'est pas des métiers qui sont mis sur le devant quand, par exemple, on cherche son orientation au lycée ou autre. À cette époque, quand je travaillais en maison d'édition, là, je m'intéressais à la nutrition, aux plantes médicinales. Moi-même, j'utilisais des huiles essentielles. J'étais passée au naturel, par exemple, pour les cosmétiques et autres. Et du coup, là, ça rentrait en résonance avec mes intérêts du moment et ça m'a vraiment passionnée et captivée. Et c'est à cette période-là, donc j'étais en fin de master et j'étais en alternance, c'est pour ça que je travaillais dans cette maison d'édition, que j'ai décidé de faire une reconversion par la suite et d'entamer des études de naturopathie.
Je pense qu'on a à peu près le même âge. Je crois que quand on était à l'époque de l'orientation au lycée, la naturopathie, c'était encore un métier qui n'était pas très reconnu, on n'en parlait pas trop.
Oui, hein. C'est vrai, c'était balbutiant.
Ouais, puis encore là, aujourd'hui, on en parle un peu plus, ça se démocratise pas mal, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était compliqué. Mais je reconnais aussi pas mal de points communs dans nos parcours, parce que moi aussi, j'ai bossé pendant presque 3 ans dans une maison d'édition, en santé naturelle aussi.
Ah, c'est drôle.
Ouais. Et du coup, c'est vrai que forcément, dans ces milieux-là, bah, t'es mis en contact avec plein d'experts, toi du coup c'était dans la naturo, ça permet vraiment de te familiariser avec ce métier là, donc trop chouette que tu aies eu cette expérience là.
Et puis, comme je le disais, c'est vrai que la naturopathie, ça peut sembler assez vaste comme domaine. Moi, j'aime bien dire qu'un naturopathe, c'est le médecin généraliste de la santé naturelle. Alors, je sais pas si j'ai raison de dire ça ou quoi, mais voilà. Je trouve que c'est un terme qui me parle. Et en tant que naturopathe, vous êtes capable de faire un bon diagnostic généralement et d'orienter le patient vers des méthodes douces, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette approche de la santé consiste et sur quel pilier elle s'appuie?
Oui, avec plaisir. Alors, pour moi, finalement, la naturopathie, c'est vraiment l'art de corriger un déséquilibre corporel. Bon, généralement, qui a déjà été diagnostiqué. Nous, en tant que naturopathe, on vient pas poser un diagnostic. On s'appuie un petit peu sur ce que le corps médical a pu nous donner en piste. Bon, parfois, il n'y en a pas non plus. Notamment, on va en parler plus tard, mais c'est le cas des troubles digestifs. C'est pas forcément facile d'avoir un diagnostic dans cette sphère-là. En tous les cas, nous, on s'appuie sur les symptômes de la personne et on va essayer de les corriger, de les améliorer par des biais naturels. Donc, évidemment, ça peut être via des exercices sportifs, des exercices respiratoires, la cohérence cardiaque, la respiration carrée, en incitant aussi à l'accompagnement psychologique, parce que c'est vrai que nous, des fois, on n'a pas forcément ce levier-là en tant que naturopathe. On peut changer l'assiette de nos consultants, on peut préconiser certaines plantes en décoction, en infusion, en complément alimentaire pour que ça soit plus dosé. On peut orienter la personne vers des antioxydants, des compléments alimentaires, la correction de certaines carences, même si on en repère sur des bilans biologiques qui ont été effectués dans le passé. Enfin voilà, bref, c'est assez large. On essaie finalement d'utiliser tous les outils qu'on peut utiliser pour corriger le symptôme, le déséquilibre dans le corps de la personne, et en essayant aussi, ça c'est quelque chose d'important dans la naturopathie, de comprendre la cause qu'il y a derrière tout ça, parce que c'est vrai que on peut toujours donner des pansements pour quelque chose. Exemple basique, assez connu, la personne a de l'acné, on peut orienter vers une huile essentielle de titri à mettre sur la peau avec une huile de ligel. Mais pourquoi elle a de l'acné? Et ça, c'est vraiment aussi le travail de naturopathe, l'investigation de fond et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un déséquilibre hormonal? Est-ce que c'est lié au contenu de l'assiette? Est-ce que c'est une intolérance, une allergie, un mode de vie inadapté, etc.? Donc voilà, on essaie de creuser un petit peu au niveau des causes.
Mais ça, c'est tellement, tellement important ce que tu dis. Je te rejoins à 3000%. Le fait de pas juste, même si c'est avec des méthodes naturelles, de pas juste se contenter d'effacer un symptôme, mais d'aller savoir pourquoi est-ce qu'il s'est déclenché. Souvent, tu sais, quand on remonte à une cause racine, on s'aperçoit qu'en fait, elle va déclencher plusieurs symptômes. Typiquement, tu vas avoir de l'acné, pour reprendre ton exemple, et peut-être des troubles digestifs, des ballonnements, justement, comme on va parler tout à l'heure. Mais c'est marrant parce qu'une racine peut amener à différents symptômes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir en apparence les uns avec les autres. Donc, merci beaucoup pour cette explication. Dans cet épisode, nous, on va parler de troubles digestifs plus spécifiquement, notamment d'intestin irritable ou de côlon irritable. Enfin, pour moi, ce terme veut dire la même chose. On va parler de SIBO, de candidose, mais aussi de maladies dont on parle un peu moins, j'ai envie de dire, comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Ce sont des pathologies dont on entend un peu moins parler. Juste pour info, je le dis pour les auditeurs, je vais abréger le terme syndrome de l'intestin irritable par SII, et je pense que tu feras la même chose parce que c'est un peu long à prononcer. Est-ce que tu peux, pour chacune de ces pathologies que je viens de citer, les définir brièvement de sorte à ce qu'on y voit un peu plus clair?
Bien sûr. Alors, le SII, ça c'est un terme médical qui désigne un ensemble finalement de symptômes qui vont être liés au système digestif, qui va être perturbé. Donc c'est relativement large et quelque part c'est un peu un fourre-tout. On va en parler plus tard, j'imagine, dans ce podcast. Mais c'est vrai que le SII, c'est vraiment quelque chose qui peut désigner aussi bien des maux de ventre, des ballonnements, des gaz, des diarrhées, une alternance entre diarrhée, constipation ou juste de la constipation. Donc c'est très divers et c'est un terme finalement, un diagnostic qui est posé pour des personnes qui sont en souffrance digestive, mais qui peut finalement cacher plein d'autres choses derrière. Alors, encore une fois là, le SII, ce serait plus le fait de désigner des symptômes sans s'adresser à la cause, et les causes peuvent être diverses et variées. Pourquoi on a un SII? Ça peut être des difficultés hormonales chez la femme, et d'ailleurs c'est pas anodin que le SII touche plus la gente féminine que les hommes, parce qu'on est quand même très très dompté, je trouve pas mon terme, mais...
On est régi par nos hormones, hein, c'est ça?
Régi, exactement. On est régi par nos hormones, et finalement ces dernières ont une interaction très forte avec le système digestif. Est-ce que voilà, c'est des difficultés hormonales? Est-ce qu'il y a une hypothyroïdie derrière, qui revient encore une fois à une difficulté hormonale? Est-ce que c'est plutôt une hypochlorhydrie? gastrique, donc une difficulté au niveau de l'estomac plutôt. Est-ce qu'il y a un SIBO justement, des intolérances qui n'ont été, ou voire une allergie qui, bon, les allergies c'est plus facilement diagnostiqué, mais des intolérances qui n'ont pas été repérées. Voilà, autant de choses qui pourraient expliquer finalement le développement d'un SI. Ensuite, le SIBO, donc ça pour le coup, c'est davantage encadré, médicalisé. C'est une surprolifération bactérienne qui a lieu au niveau de l'intestin grêle. On a différents types de SIBO. Après, il y en a trois. Donc, on a des SIBO qu'on va désigner par le terme SIBO hydrogène, sulfure d'hydrogène ou IMO. L'IMO se distingue très légèrement du SIBO dans le sens où ce ne sont pas des bactéries qui ont proliféré, mais ce sont des archées. Et généralement, ce n'est pas uniquement au niveau de l'intestin grêle que ça a proliféré, mais c'est dans tout le tube digestif. Donc ça, c'est le SIBO. Et ensuite, pour ce qui est de la candidose, donc ça, c'est quand même un peu plus connu. On en parle aujourd'hui plus fréquemment. Et d'ailleurs, c'est en ça qu'on peut aussi confondre les troubles digestifs, parce qu'on va énormément aujourd'hui véhiculer, parler de la candidose intestinale. Pour autant, par exemple, on peut s'axer sur cette pathologie en se disant, voilà, c'est mon trouble digestif, alors qu'en vérité, il y en a beaucoup d'autres qui se ressemblent en plus en termes de symptômes. C'est là le côté délicat pour faire la part et identifier quel est le bon trouble digestif. Heureusement, pour ça, il y a des tests. En tous les cas, donc, la candidose intestinale, c'est la prolifération d'une levure, d'un pathogène dans l'intestin qu'on appelle le candida albicans. Finalement, on a tous du candida albicans dans notre microbiote intestinal. C'est juste qu'il est régulé par les bonnes bactéries, qu'il est présent en certaines quantités, vraiment en toute petite quantité généralement. Et quand ça devient problématique, c'est qu'il a du coup proliféré, qu'il a pris trop de place. Et quand c'est le cas, justement, quand le candida albicans prolifère, on va avoir des symptômes qui apparaissent comme des pulsions sucrées, des envies de sucre en permanence, des gaz, de la diarrhée ou de la constipation, une alternance entre les deux, de la dermatite séborrhéique, on peut avoir aussi du muguet au niveau de la bouche, une langue chargée, enfin bref, tout un tas de symptômes de dérèglement. Et enfin, RCH et Crohn, c'est vrai qu'on en parle peut-être un peu moins dans notre milieu, parce que je pense que voilà, c'est beaucoup plus médicalisé, il y a beaucoup plus de médicaments qui sont mis en place pour ces pathologies et qui sont quelque part plus lourde, plus prise en charge du côté médical. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont demi-ci, hein, c'est des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui se caractérisent finalement par une inflammation de la muqueuse intestinale. La RCH, ça va être localisé au niveau du rectum, hein, d'où son nom rectocolite, et aussi au niveau du côlon. Donc ça va se caractériser parfois par des ulcères, des épaississements de la paroi, des fissures, ce genre de symptômes. Et la maladie de Crohn, on a à peu près des symptômes similaires avec une inflammation vraiment de la paroi, de l'intestin, et qui, c'est plus une pathologie qui évolue par poussée. La personne va connaître dans l'année des fois des crises qui vont l'amener à avoir des maux de ventre terribles et des diarrhées, doublées évidemment de cette inflammation permanente de la muqueuse intestinale.
Merci beaucoup. Je trouve que tu expliques tout ça de manière hyper claire, c'est très compréhensible. Donc franchement, merci. Quand on commence à souffrir de ballonnements ou de dérèglements du transit, de gaz, enfin tout ce que tu as énuméré en fait, globalement je pourrais dire de mauvaise digestion, et surtout dès lors qu'on se renseigne sur tous ces symptômes, on a tendance à se mettre, comme tu l'as dit, dans la catégorie fourre-tout du syndrome de l'intestin irritable. Et en fait, c'est à la fois compréhensible dans le sens où parmi toutes les pathologies qu'on a citées, il y a certains symptômes qui peuvent être similaires, qui peuvent se rejoindre entre un SI, un SIBO, un Crohn, une candidose. Comment est-ce que tu fais, toi, la distinction entre toutes ces pathologies? Comment est-ce que tu établis ton diagnostic de manière fiable?
Ça dépend. Des fois, c'est vrai que les personnes viennent nous voir déjà avec un diagnostic. Hein. C'est le cas de tout... toutes les personnes qui sont venues me voir avec une rectocolite hémorragique ou une maladie de Crohn, parce que, encore une fois, voilà, c'est très encadré par le corps médical. On a peut-être davantage de réponses qu'avec un SI, par exemple. Donc, les personnes viennent nous voir avec la calprotectrine fécale, par exemple. Donc, ça, on n'a pas à orienter et c'est assez clair, finalement, puisque les personnes viennent avec un diagnostic. Ça peut être le cas aussi du SIBO. C'est pas systématique. Alors, le SIBO se diagnostique grâce à un test respiratoire qu'on va faire dans un hôpital, généralement, qui consiste au fait de prendre une solution sucrée au départ et puis de souffler dans certains tubes pour mesurer les gaz expirés. En fait, c'est relativement simple à comprendre. Un SIBO, il y a une prolifération d'archées ou de bactéries, comme je l'ai décrit. Quand on leur donne certains types de sucres, eh ben, ça les nourrit et elles produisent finalement des gaz. Et ces gaz vont traverser la paroi de l'intestin, là où les archées ou les bactéries se trouvent, vont retourner dans la circulation sanguine et vont se retrouver au niveau des alvéoles pulmonaires et vont être expirées. Et c'est ça qu'on mesure dans le test respiratoire, dans le SIBO, ce sont ces gaz expirés qui vont nous donner une idée de est-ce qu'il y a une prolifération ou pas des bactéries, par exemple, qui produisent de l'hydrogène, pour le SIBO hydrogène, du sulfure d'hydrogène ou du méthane dans le cas de l'IMO. Donc ça, pareil, je dirais, à l'instar de l'ARCH ou de la maladie de Crohn, la plupart des personnes viennent nous voir avec ce test respiratoire et le diagnostic qui a été posé. Après, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, en effet, là, les symptômes que la personne évoque me font penser à un SIBO. Et dans ce cas-là, je vais demander à la personne qu'elle s'oriente vers son gastro-entérologue ou vers son médecin qui, s'il peut, je demande qu'il lui prescrive finalement un test respiratoire. Et ça va du coup permettre d'avoir justement le diagnostic que va établir encore une fois le médecin ou le gastro-entérologue, puisque le naturopathe ne peut pas poser de diagnostic. Nous, on peut juste se dire « Ah, tous ces symptômes me font penser à… » et du coup orienter pour avoir un diagnostic. Mais encore une fois, c'est vrai que pour le SIBO, l'ENICI, le diagnostic est souvent déjà fait. Et pour ce qui est de la candidose, ça, c'est vrai que souvent, les personnes se sont plus identifiées à des articles, à ce qu'elles ont lu sur des sites internet ou entendu dans des podcasts ou lu sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, là, je vais être plus susceptible de préconiser des tests, alors qui souvent ne sont pas forcément remboursés s'ils ne sont pas justement prescrits par le médical. Et là, je pense par exemple au test MOU ou le test DMI. C'est des tests, en fait, où on mesure les métabolites urinaires parce que, un peu comme les bactéries ou les archées qui produisent des gaz, par exemple, dans le cas de d'une prolifération d'un candida albicans, on a des métabolites urinaires produits par ce dernier qu'on peut retrouver du coup dans les urines et quantifier et savoir si oui ou non du coup il y a une candidose. Ou après, plus classiquement, on a les anticorps anti-candida qui peuvent être mesurés au niveau sanguin. Ça m'arrive aussi d'orienter vers ce test-là. Les deux sont fiables. Et pour ce qui est du SI, bah, ça c'est plutôt une pathologie qui est aussi que le corps médical a un petit peu analysé, enfin, et que le médecin généralement a posé en termes de diagnostic à son patient. Et voilà, moi en tout cas j'essaye de naviguer, je vais plutôt orienter soit vers un DMI, un test MOU ou des anticorps anti-candida ou un test respiratoire. Et c'est comme ça que je vais réussir un petit peu à distinguer si c'est un SIBO ou une candidose. Après l'hémicycle, pour le coup, c'est relativement clair.
Alors parlons un peu des causes maintenant de ces maladies. Pour quelles raisons est-ce qu'on peut déclencher ce genre de troubles digestifs ?
Alors il y en a moult, il y en a tellement qui sont toutes différentes les unes des autres. Parlons d'abord du stress, parce que c'est vrai que ça nous affecte énormément dans nos sociétés modernes et c'est très très courant. Le cortisol, par exemple, lorsqu'il devient chronique et produit en trop grande quantité, va affecter le système digestif, puisque ce dernier ne peut fonctionner de manière adéquate, optimale, que si le système parasympathique s'active. Donc ça, c'est une branche de notre système nerveux qui, en fait, régule toutes les fonctions digestives, les sécrétions des enzymes, tout ce qui va nous permettre de digérer et décomposer les aliments. Et donc, ce système parasympathique ne s'active que lorsqu'on est détendu, que lorsque on mange, par exemple, la tête reposée, qu'on est en mode repos. Et donc, il se désactive au profit du système orthosympathique, qui est celui qui nous met en action et donc qui, forcément, freine ce parasympathique et donc toutes nos sécrétions digestif et un fonctionnement digestif optimum. Donc on a le stress, évidemment, on a les intolérances, par exemple non détectées, une personne qui sera intolérante depuis toujours au lactose ou aux œufs, au gluten, mais qui en consomme tous les jours et qui du coup ne cesse d'avoir des diarrhées, par exemple à répétition, ça pourrait être tout simplement ça. Après, évidemment, il y a le fait de consommer des aliments ultra transformés qui sont pas propices à notre système digestif, donc forcément à la longue, ça va causer également des dérèglements. On a les antibiothérapies prises à répétition. D'ailleurs, on sait qu'une grande partie des candidoses intestinales se développent suite à ces dernières. Donc, évidemment, les antibiotiques peuvent des fois avoir leur intérêt, leur place dans le cadre de certaines pathologies, mais voilà, faut veiller à bien les équilibrer derrière, éventuellement avec une prise de probiotiques. Après, il y a l'hypothyroïdie, puisque la thyroïde joue un rôle clé également dans l'équilibre du système digestif. On a l'hypochloridrie, le fait que l'estomac ne génère plus assez d'acide chlorhydrique. Donc, c'est souvent en lien de toute façon avec l'hypothyroïdie, puisque l'acidité gastrique ne peut se produire qu'en présence de T3 en suffisance. On a les problématiques hormonales. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que la femme est très, très sujette aux troubles digestifs et c'est pas pour rien. une carence en progestérone en phase lutéale va plutôt avoir tendance à accélérer le transit, à donner de la diarrhée. Une carence en œstrogène va plutôt engendrer de la constipation. Donc, c'est aussi une sphère à intégrer, à un petit peu à investiguer si jamais la personne a des soucis digestifs. On peut penser à plein d'autres choses, hein, tout ce qui est sous-poids, insuffisance de calories, qu'on retrouve aussi beaucoup dans notre société moderne, régie un petit peu par la culture de la minceur ou des régimes, qui va engendrer plutôt une tendance à la constipation. L'intolérance à l'histamine aussi, pour tous les profils très allergiques qui ont déjà une sensibilité de base, peut déclencher des symptômes. La carence en nutriments, au zinc, aux oméga-3, à la vitamine D, voilà ce genre de nutriments qui viennent nourrir la muqueuse de l'intestin et qui peuvent être aussi fréquents, enfin ces carences peuvent être fréquentes dans notre société puisque c'est pas ce qu'on consomme le plus aujourd'hui, hein, clairement les petits poissons gras, les huîtres, le foie, tout ce qui peut contenir tous ces nutriments, c'est pas ce qu'on intègre le plus dans notre alimentation. Après, on peut avoir l'absence d'exercice physique, une dysrégulation du nerf vague, des carences en enzymes digestives, enfin voilà. Bref, il y a énormément de raisons qu'il faut un petit peu investiguer si la personne qui vient nous voir a des troubles digestifs.
Ouais, et d'où l'importance d'avoir aussi un diagnostic vraiment personnalisé et de consulter une personne à la fois compétente et j'ai même envie de dire spécialisée dans ce domaine-là parce que c'est tellement... En même temps, c'est un problème spécifique parmi d'autres choses, mais c'est tellement vaste que c'est hyper important de ne pas se perdre dans toutes les causes et toutes les solutions et tous les régimes dont on nous parle, etc. Parmi mes patients qui me consultent pour un SII, une candidose, un SIBO ou tout autre trouble digestif, j'ai personnellement remarqué que... ils avaient des profils psychologiques assez type. Généralement, ce sont des personnes qui sont de nature perfectionniste, très attachées à l'image qu'elles renvoient aux autres, elles se soucient beaucoup du regard des autres. C'est aussi des personnes qui ont des difficultés généralement à accepter leur corps et à s'aimer telles qu'elles sont. Globalement, ce sont des personnes stressées, qui font beaucoup de choses, mais qui ne prennent pas le temps d'être, tout simplement, de respirer, de contempler, etc. Et je remarque souvent que ces personnes-là, elles font la course au temps. Tu sais, c'est le genre de personne qui n'a jamais assez le temps, tu vois. Est-ce que toi, tu as déjà remarqué ce genre de profil dans ton cabinet et est-ce qu'on peut l'expliquer en naturopathie ou est-ce que c'est juste le fruit du hasard?
Je te rejoins à 100%, c'est vraiment le profil aussi que je rencontre en cas de troubles digestifs chez les personnes qui viennent me voir. C'est super intéressant, je trouve, de faire ce lien entre personnalité, esprit et corps et on se rend compte déjà d'une part que finalement le corps est vraiment soumis à nos émotions, à ce qu'on peut ressentir dans une journée. Il y a vraiment un lien, enfin, c'est pas pour rien qu'on appelle aussi des maladies psychosomatiques parce que le psyché, le mental influe énormément sur notre corps. Et ce profil type, je pense, déjà, est quand même le reflet d'un manque de lâcher prise. Donc forcément aussi, ça va créer, ça va générer un petit peu des blocages dans le corps. Et puis, il y a un peu l'aspect un peu plus scientifique, je dirais, qui est le fait que on sait que ces personnes qui sont tout le temps dans le rush, dans la précipitation, dans un contrôle permanent un peu de tout, voilà, sont dans une forme de stress chronique, finalement, pour moi, avec un cortisol, un système nerveux qui va être dérégulé. Et donc, forcément, ça va impacter le système digestif, un peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure avec ce système parasympathique qui s'oppose à l'orthosympathique. Et typiquement, ce genre de personnes qui sont vraiment dans le stress, dans la quantité de choses à abattre qui est juste immense, finalement, vont être branchées sur ce mode orthosympathique qui est quand même très mise en avant par nos sociétés, je trouve, à l'inverse du système parasympathique qui, lui, régit la digestion. Donc forcément, les deux sont un petit peu en opposition. Et le fait de réussir à trouver des pauses, à être plus contemplatif, comme tu le disais, plus dans la détente, l'instant présent, etc., va favoriser ce système parasympathique qui régit notre digestion. Donc forcément, ça va la favoriser. Donc pour moi, le lien est aussi là.
Moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de nous dire là parce que ça rejoint la notion que tu as énumérée juste avant, qui est la notion du nerf vague. Le nerf vague qui a pour but de réguler et notamment de calmer le système nerveux pour qu'on ne soit pas sans cesse en hyperstress et en mode survie. Et comme tu l'as dit, dans nos sociétés modernes, c'est un mode qu'on active très fréquemment pour ne pas dire constamment. Quel est le lien entre la dérégulation de ce nerf vague et les troubles digestifs?
Alors, en fait, ce nerf vague, c'est un nerf qu'on appelle aussi pneumogastrique. Et donc, il fait partie, comme tu l'évoquais, du système parasympathique, donc le système qui vraiment régit la digestion. Et il va faire le lien entre, enfin, assurer la communication entre le cerveau et de nombreux organes du corps, puisqu'il traverse énormément d'organes dans notre corps. C'est d'ailleurs le nerf le plus long du corps humain. Et donc, dans son passage par certains organes, il passe par énormément d'organes digestifs, comme l'œsophage, l'œsophage, le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, l'intestin grêle, le pancréas par exemple, et une partie aussi du gros intestin. Donc ce qui fait qu'il assure aussi la communication entre tous ces organes digestifs et notre cerveau. Il va faire circuler par exemple les messages de la faim, de la satiété, et puis il va être aussi responsable d'une partie du péristaltisme intestinal, et donc du transit. Enfin bref, il a énormément de fonctions. Et voilà, on sait que, encore une fois, le fait d'activer tout le temps le système sympathique plus que le système parasympathique, ça va entraîner des dysrégulations de ce nerf vague, et donc forcément les fonctions digestives vont être impactées.
Top, merci beaucoup. Et justement, comment faire pour réguler son nerf vague?
Alors, il y a plein de petits tips. Globalement, ça va être d'orienter plutôt son système nerveux vers le parasympathique, donc tout ce qui va être de l'ordre de la détente, de la respiration abdominale, la cohérence cardiaque, le rire également, le fait de chanter ou faire des gargarismes avec de l'eau, le fait d'activer le gag réflexe, donc ça c'est le réflexe nauséeux, ça va être par exemple de tapoter un petit peu le fond de sa langue avec une brosse à dents. L'ostéopathie aussi marche énormément pour cela, et le magnésium.
Super. On va parler maintenant d'alimentation. Je pense qu'on connaît tous déjà certains grands principes qui peuvent s'appliquer pour adopter une bonne hygiène de vie et une alimentation saine. Est-ce que cependant il y a des choses, des particularités diététiques que toi tu conseillerais quand on souffre de troubles digestifs? Quels conseils tu donnerais, en tout cas sur le plan de la nutrition et de l'hygiène de vie, à une personne qui souffrirait de troubles digestifs, notamment tout ce qui est côlon irritable, SIBO?
Déjà, il y a des choses très basiques que je vais aborder très rapidement. Du coup, c'est le fait, par exemple, de boire entre les repas pour ne pas diluer les enzymes digestives pendant le repas. Bien mastiquer, puisque dans notre salive, on retrouve une enzyme digestive qui va permettre de décomposer déjà les glucides au sein de notre bouche, donc d'alléger un petit peu le travail après la charge de travail digestif pour le reste des organes. Le fait de manger à tête reposée sans stress, de prendre par exemple 5 minutes si on est stressé pour faire une cohérence cardiaque. Le fait de manger évidemment le plus possible des aliments biologiques, puisque les pesticides et autres peuvent perturber aussi le système endocrinien, donc toutes les communications hormonales qui peuvent avoir lieu au sein de notre corps. Le fait de manger le moins transformé possible, de faire des assiettes le plus simple possible également, de pas surcharger le travail du système digestif. Et après, je dirais de manière un peu plus spécifique, on peut penser au fait de favoriser plutôt les protéines animales de haute qualité, évidemment, plutôt que végétales, parce que tout ce qui va être de l'ordre de la légumineuse est quand même très difficile à digérer, à moins qu'elle soit très très bien préparée avec du trempage, énormément de cuisson et autres. Plutôt favoriser les œufs, le lait de brebis, les volailles par exemple, ce genre de protéines animales beaucoup plus digestes puisqu'elles ne contiennent pas de fibres finalement. On peut penser éventuellement un peu plus de façon spécifique à essayer de maîtriser sa quantité de fibres. On sait que ceux qui ont des problématiques de type SI et SIBO, je dirais pas forcément en cas de candidose, le fait de juguler, de pas être trop en excès de fibres va permettre de calmer généralement les troubles digestifs. Et de façon encore plus spécifique, on va avoir l'alimentation pauvre en FODMAP. Alors ça, vraiment, il y a énormément à dire dessus, mais c'est vrai que ça peut bien aider pendant un temps les personnes qui souffrent de SI ou même de SIBO. C'est un type de sucre qui a tendance à nourrir justement ces bactéries qui créent des difficultés digestives, qu'on va évincer pendant vraiment une période courte, et qu'on va faire généralement ce côté où on retire ces FODMAP, ces sucres-là, avec un professionnel accompagné, enfin formé pour ce type d'alimentation. Voilà, donc on peut penser à tout ces petits tips. C'est le fait évidemment d'intégrer des oméga 3 qui sont bons pour la muqueuse de notre intestin, donc des petits poissons gras par exemple, ou des œufs bleus blanc cœur, ou des antioxydants qui ont une action aussi réparatrice de la muqueuse de l'intestin.
Oui, j'avais fait un épisode de podcast justement sur le protocole FODMAPS pour expliquer un peu ce que c'était. Je remettrai le lien dans les notes. J'ai pas en tête le numéro de l'épisode, mais je le rechercherai dans les notes. Alors, on va parler aussi rapidement du SIFO. C'est vrai qu'on parle beaucoup du SIBO, mais un petit peu moins du SIFO. On l'apparente à la candidose. Après, c'est vrai que la candidose, bon, c'est un type de SIFO, mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce qu'il y a d'autres types de prolifération fongique?
Alors oui, en fait, finalement, la candidose, on s'est vraiment focus sur la prolifération d'une espèce fongique, à savoir le candida albicans, mais il peut en exister d'autres. Donc finalement, le SIFO, c'est quelque chose qui englobe la candidose digestive. La candidose digestive est justement aux États-Unis appelée SIFO. Donc on va dire que c'est un terme médicalisé qui est peut-être un peu plus juste, parce qu'on peut avoir une prolifération d'espèces fongiques qui ne serait pas liée au candida albicans. Par exemple, déjà, il y a d'autres types de candida. On peut penser au candidat tropicaliste, par exemple. Bref, et en plus, la candidose, à la base, en France, enfin, c'était vraiment quelque chose désigné et utilisé pour parler de la prolifération oropharyngée, donc le fameux muguet qu'on peut avoir au niveau buccal, au niveau de la bouche. Je dirais que c'est plus juste d'utiliser le terme sifo qui englobe la prolifération du candida albicans, mais il peut avoir voilà, d'autres proliférations d'espèces fongiques. Et le sifo met aussi en lumière le fait que c'est une prolifération au niveau de l'intestin grêle. Donc ça vient préciser ce côté, c'est un dérèglement digestif et pas forcément juste buccal, par exemple.
C'est pareil, j'avais aussi fait un épisode justement sur la candidose dans lequel je partageais mes solutions, mais je pense que c'est toujours bon aussi d'avoir le point de vue d'autres professionnels. Peut-être et sûrement que tu as des solutions qui sont complémentaires, des choses que j'aurais pas dites. Quelles sont, toi, les solutions que tu recommandes pour éliminer une candidose?
Bon, déjà, il y a les mesures diététiques simples, comme le fait évidemment de, si la personne n'est pas passée par là, diminuer tout ce qui va être la charge sucrée, les pâtisseries, les sucreries de manière générale. Par contre, moi, c'est vrai que je ne mets pas en place des régimes anti-candidose stricts parce que généralement, ça ne s'adresse pas aux causes du dérèglement de la candidose. Donc, moi, je ne vais pas forcément supprimer les fruits ou autres. Au contraire, je trouve qu'ils sont très bénéfiques pour le transit. Je vais justement insister sur la consommation accrue de fibres, si ce n'est pas le cas, hein, bien entendu. Par exemple, des fibres qui ont tendance à déconstiper, puisque c'est quand même un profil type, je trouve. En tout cas, moi, de ce que je vois, des personnes qui ont de la candidose, elles sont plutôt constipées. Donc, j'oriente vers le kiwi, le brocoli, la carotte, par exemple. Après, de manière un peu plus spécifique, on peut penser à la souche Lactobacillus plantarum GLP3, qui est une souche qui a été très étudiée dans le cadre de la candidose. Donc là, on va trouver cette dernière sous forme de probiotique. Donc pourquoi pas passer par une cure de probiotique ou avant une cure un petit peu antifongique naturelle, hein, bien entendu. Donc là, on a énormément de produits. On peut trouver pléthore de choses différentes sur les sites de compléments alimentaires. Moi, c'est vrai que j'aime bien la cure avec de l'origan émulsifié parce qu'elle est douce et elle ne va pas agresser la sphère de l'estomac. C'est un produit qui s'appelle ADP chez Biotix. Ça m'arrive aussi de préconiser cela ou de la chlorella parce que c'est très riche en chlorophylle qui a un côté purifiant aussi du tube digestif. Donc, il peut éliminer aussi les proliférations fongiques.
D'où l'importance de remonter jusqu'à la cause. Je te partage mon témoignage parce que moi, j'ai fait une candidose il y a des années quand j'étais étudiante. Alors, j'aurais certainement jamais de preuves que c'était ça ou pas, mais j'ai de grandes, grandes suspicions qu'elle était apparue à cause de la pilule contraceptive qui avait complètement déréglé mon système hormonal. Bon, j'ai fait tout un protocole, j'ai suivi énormément de règles. Alors, justement, comme tu l'as dit, j'ai jamais fait de régime strict parce que d'une part, ça me frustrait énormément, ça résolvait rien du tout, ça ne créait qu'encore plus de troubles mentaux vis-à-vis de l'alimentation. Mais en tout cas, il y a une chose qui a fonctionné et qui fait toujours partie de mes habitudes de vie, et c'est grâce à la candidose que j'ai découvert ça, c'est le pain au levain. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai changé ma consommation de pain, j'ai arrêté de prendre du pain à la levure en fait, et j'ai consommé du pain au levain. Ça m'a énormément aidé à faire partir la candidose en fait, parce que je nourrissais ma flore intestinale avec des bonnes bactéries qui du coup rentraient en compétition avec le candidat et à rééquilibrer en partie grâce à ça la flore intestinale quoi. Donc voilà,
c'est super intéressant ce que tu nous partages. Déjà, ça nous montre que des fois on n'a pas à aller chercher trop loin, c'est par des gestes simples du quotidien qu'on peut améliorer notre équilibre digestif. Et ensuite, c'est super intéressant aussi ce que tu dis, parce que finalement oui, il y a un côté équilibre bonne flore et les pathogènes qui peuvent être naturellement présents dans notre microbiote. Et donc si vraiment on met l'accent sur on donne des prébiotiques, ils viennent nourrir nos bonnes bactéries, on va avoir un enrichissement de la bonne flore qui va venir juguler, contrôler le développement des pathogènes et les mettre en silence. Donc c'est aussi très intéressant de ce fait, je trouve.
J'ai envie qu'on parle aussi de ton livre que tu as sorti en 2023, Le Grand Guide des médecines douces pour petits et grands, aux éditions Attier. Déjà bravo, franchement, d'avoir publié un livre, tu dois être trop fière de toi.
Merci beaucoup.
De quoi parle ton ouvrage et qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur?
Mon éditrice m'a contactée via les réseaux sociaux à l'époque et elle voulait faire vraiment une sorte de Bible où on retrouve énormément de pathologies. Donc évidemment, on ne peut pas non plus être exhaustif parce qu'il en existe pléthore, mais en tout cas les plus communes, les plus connues, je dirais, et de lister un petit peu toutes les solutions naturelles qu'on peut trouver pour ces dernières, que ce soit du côté de l'alimentation, de la phytothérapie, les bourgeons de plantes, donc la gémothérapie, les compléments alimentaires, etc. etc. Donc c'était une très chouette expérience même pour moi, qui était formatrice, parce que ça m'a amenée à aller chercher des remèdes parfois que je ne connaissais pas, comme un peu plus de l'ordre de l'homéopathie, et de recenser tout ça dans un livre, il y a un côté très pratique et très enrichissant.
Bah, moi, c'est un de mes grands rêves d'écrire un livre, donc je t'admire beaucoup pour ça, franchement, bravo.
Merci infiniment.
Aujourd'hui, le nombre de nouveaux patients que tu peux prendre en consultation est limité, il me semble. Pour quelles raisons est-ce que tu as choisi ça? Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Est-ce que tu as envie de développer peut-être d'autres méthodes d'accompagnement? Si ce n'est pas secret, hein, bien sûr, est-ce que tu veux bien nous partager ce que tu fais à côté?
Alors oui, avec grand plaisir, il n'y a rien de top secret dans tout ça. En fait, c'est que j'accompagne déjà parallèlement des élèves de l'école de naturopathie pour laquelle je travaille, donc qui s'appelle l'INH, qui est située à Paris. Chaque mois, donc ces derniers, quand ils ont besoin d'aide, besoin d'avoir un éclairage sur leur cours, font appel à moi, donc on se prévoit une session pour ça, donc c'est aussi un temps que je dois intégrer à mon emploi du temps. Parallèlement, donc pour cette même école, ça m'arrive ponctuellement de préparer des conférences en ligne, j'avais fait ça sur l'endométriose par exemple, là il va en avoir deux qui vont avoir lieu, donc autour de la prise de poids, son intérêt, comment y parvenir et les allergies. Ça m'arrive aussi d'être contactée par des organismes externes, donc là par exemple je pense à un site internet qui s'appelle Simplicure, qui voulait organiser une conférence avec moi, donc je suis en train de travailler sur cette dernière qui aura lieu autour de l'aménorrhée. Je suis aussi sur un deuxième livre, donc j'ai été contactée par une autre maison d'édition. Ouais, c'est génial, j'ai beaucoup de chance donc, pour parler d'un autre sujet et dont la publication est prévue pour l'année prochaine et je dois rendre mes textes en août, donc voilà, j'ai un petit peu de travail d'ici là. Puis évidemment, après, il y a le suivi des anciens consultants, le béaba de tous les jours, j'ai envie de dire, hein, préparer des posts et des réels sur Instagram, qui est une vitrine aussi de mon travail, écrire des articles sur mon site internet que j'entretiens, des newsletters. Et puis récemment, j'ai aussi lancé une masterclass de temps en temps que j'ai orientée autour des bilans biologiques et de la prévention en termes de santé et des bilans biologiques.
Merci beaucoup pour tous tes partages. Alors j'ai trois dernières questions. C'est des questions que je pose à mes invités habituellement sur le podcast. Ma première question, c'est qu'est-ce que représente le corps pour toi ?
Waouh, c'est très intéressant. Pour moi, le corps, c'est l'expression de la joie de vivre quelque part. La chance d'être en mouvement finalement, la chance de pouvoir danser, la chance de pouvoir interagir avec autrui. Je pense que oui, je tire de la joie finalement par le corps à travers le mouvement au quotidien, que ce soit la danse, tout simplement une simple marche à pied pendant voilà, des heures avec des amis ou autres, la course à pied, ce genre de bonheur du quotidien et par la connexion avec autrui puisque le corps est aussi une interface avec l'autre. Je pense que ce sont ces deux choses majeures que représente le corps pour moi.
Et qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui à ton corps ?
Juste un immense merci, je pense, parce que je pense que je l'ai pas mal malmené sans m'en rendre compte parfois. Et le fait qu'il soit toujours performant et qu'il réponde à tout ce que je lui demande en termes de sollicitations, j'ai énormément de gratitude pour ça parce que je suis passée par des régimes hypocaloriques, de l'orthorexie, un poids très faible qui m'a valu une aménorrhée pendant de longues années, du véganisme, enfin bref, j'ai un peu tout fait à mon corps et pourtant aujourd'hui, il est toujours là, il répond toujours présent, donc merci à lui.
Waouh, c'est beau, cette gratitude. Pour finir, quel message tu souhaiterais transmettre à travers cet épisode ? Est-ce que tu as une référence à partager, quelque chose qui t'inspire, un film, un livre, une citation ?
Alors, il y a énormément de choses, mais je pense que comme on parlait vraiment et qu'on s'est axé sur les troubles digestifs, je dirais le fait d'être patient, de cultiver vraiment énormément d'espoir, de garder, maintenir cet espoir, parce que la rémission des troubles digestifs, alors des fois ça peut être vraiment simple, hein, mais des fois ça peut demander d'explorer plusieurs pistes, de voir plusieurs thérapeutes avant de trouver les bonnes réponses, parce que comme on l'expliquait, le trouble digestif est quand même multifactoriel, mais voilà, de garder en tête que si on active les bons leviers, le corps répond toujours, et de persévérer et de garder cette foi dans le vivant et dans la vie.
Eh bien, merci beaucoup. Tu es quelqu'un de très inspirante. En tout cas, je prends plaisir à te suivre sur les réseaux sociaux. Évidemment, je mettrai le lien de ton compte Instagram pour les personnes qui ne te connaîtraient pas sur le podcast et qui souhaiteraient rejoindre ton aventure. Merci beaucoup, Manon, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Puis écoute, au plaisir de te revoir et d'échanger avec toi à nouveau.
Merci, Claire. C'était complètement partagé. Merci de ton invitation. C'était un vrai plaisir. Et à bientôt sur les réseaux ou ailleurs.
Merci. Ciao.
Ciao.
J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura inspiré et motivé à prendre soin de votre santé au quotidien. Comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser un avis et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de me soutenir et de m'encourager à produire de nouveaux épisodes. En attendant de se retrouver mercredi prochain à 7h, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous.